Vous êtes sur RTL.
C'est Agnès Bonfillon qui m'accompagne pour toute l'actualité de ce samedi. Bonjour Agnès.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Un professeur décapité parce qu'il a enseigné la liberté d'expression, ça vient de se passer dans notre pays en France en octobre 2020.
L'homme de 47 ans enseignait l'histoire-géographie dans un collège de Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines. Hier après les cours, c'est en sortant de l'établissement qu'il a été tué. Le 5 octobre dernier, dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression, effectivement, il avait montré des caricatures du prophète Mahomet, ce qui lui avait valu des menaces sur les réseaux sociaux. On va y revenir. En tout cas, hier, l'assaillant tué par les forces de l'ordre était âgé de 18 ans. Depuis ce drame, le choc est immense. On peut même parler d'effroi. Gauthier Delon-Bugard, vous êtes en direct pour RTL devant l'établissement où travaillait ce professeur.
Oui, et le périmètre de sécurité a été levé à quelques centaines de mètres de l'établissement dans cette ruelle. Seules quelques traces de sang sur le bitume témoignent encore de l'extrême violence de cette attaque. Ce matin, le choc laisse place à l'effroi. Armel est venu se recueillir il y a quelques instants sur le parvis du collège. Son fils est scolarisé dans cet établissement. Il fait partie de l'une des classes du professeur d'histoire géo de 47 ans. Il a vu les caricatures et a même assisté à l'un de ses cours hier matin.
Pourquoi cette haine? Pourquoi cette haine envers les gens? Pourquoi cette haine? J'ai dormi avec la boule au ventre. Pourquoi cette haine? Quelle religion qui dit, quel Dieu qui dit de décapiter? On est libre de penser ce qu'on a envie de dire. Ça plaît ou ça plaît pas. C'est comme ça. Nos enfants viennent à l'école. On tue leur prof. C'était un prof bien. Même il y a les parents qui disaient c'était un prof bien, quoi. Je sais pas comment l'école va reprendre.
Ce professeur ne faisait qu'appliquer le programme avec ce cours sur la liberté d'expression, poursuit cette maman. Des représentants de l'éducation nationale, de l'académie, viennent d'arriver pour, nous disent-ils, soutenir leurs collègues et rendre hommage au professeur assassiné. Une cellule psychologique vient d'être mise en place au sein de l'établissement.
Gauthier Delon-Bugard en direct de Conflans-Sainte-Honorine pour RTL. L'assaillant a donc été abattu par les forces de l'ordre alors qu'il menaçait ces dernières. Le parquet antiterroriste s'est immédiatement saisi de l'enquête et à l'heure où nous parlons, Thomas Proutot, ce ne sont plus 4 mais 9 personnes qui sont en garde à vue.
Oui, et d'abord les parents et des proches de l'assaillant présumé interpellés à leur domicile à Évreux tard hier soir. Autre interpellation à Chanteloup-les-Vignes, cette fois dans les Yvelines, celle du père d'une élève de la classe du professeur décapité. Il avait appelé sur les réseaux sociaux à virer l'enseignant après qu'il ait montré une ou des caricatures de Mahomet à sa classe. Les enquêteurs s'interrogent sur le lien avec l'attentat. Un des amis fichés S de ce père de famille est également entendu, d'après nos informations. Enfin, 2 connaissances de l'assaillant croisés quelques minutes avant l'attaque.
Et concernant l'assaillant, Thomas, son profil, en sait-on plus ce matin?
Ah bien, il s'agit d'un jeune majeur de 18 ans, né à Moscou, d'origine tchétchène. Cela est désormais confirmé. Ses parents seraient des réfugiés, mais leur date d'arrivée en France n'est pas encore certaine. Les enquêteurs cherchent également à établir son lien avec le collège du Bois d'Aulne de Conflans. Ce qui est certain, c'est qu'il était inconnu des services de renseignement, seulement des services de police classiques pour des délits mineurs. Autre certitude glaçante, c'est bien lui qui a posté une revendication sur Twitter juste après son acte. Image insoutenable du professeur assassiné. Et cette phrase, à Macron, j'ai exécuté un de tes chiens de l'enfer au nom d'Allah.
Tout est donc parti d'un cours sur la liberté d'expression.
Oui, un cours dispensé le 5 octobre, au cours duquel une ou plusieurs caricatures de Mahomet ont été montrées aux élèves. A priori, des caricatures de dessinateurs de Charlie, mais là, cela reste aussi à confirmer. Cela a créé un émoi important parmi les parents d'élèves, mais on ne sait pas encore exactement ce qui est passé, ce qui a choqué. En tout cas, le 8 octobre, une famille portait plainte et le professeur portait plainte à son tour le 12 octobre pour diffamation. Une séquence qui restait dans le cadre scolaire, c'est le lien avec l'attaque qui doit maintenant être établi.
Merci beaucoup pour ces informations. Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL.
Alors Emmanuel Macron est apparu bouleversé. Hier soir, le président de la République s'est rendu dans le collège de la victime.
Après avoir rencontré une partie de ses collègues, il a fait une déclaration devant la presse. Malgré l'émotion, le chef de l'État a eu des mots très fermes concernant les extrémistes.
Ils ne passeront pas. Nos policiers, nos gendarmes, l'ensemble de nos forces de sécurité intérieure, nos forces de renseignement. Mais au-delà de cela, toutes celles et ceux qui tiennent la République, tous et toutes, nous ferons bloc. Ils ne passeront pas. L'obscurantisme et la violence qui l'accompagne ne gagneront pas. Ils ne nous diviseront pas. C'est ce qu'ils cherchent. Et j'appelle l'ensemble de nos compatriotes, dans ce moment, à faire bloc, à être unis, sans aucune distinction quelle qu'elle soit. Car nous sommes d'abord et avant tout des citoyens unis par des mêmes valeurs, une histoire, un destin. Cette unité est indispensable.
Emmanuel Macron, qui était donc sur place hier soir, accompagné des ministres de l'Intérieur et de l'Éducation nationale. Jean-Michel Blanquer reçoit en ce moment même les représentants des syndicats d'enseignants et des parents d'élèves. Une rencontre, on vient de l'apprendre, à laquelle assiste également le Premier ministre, Jean Castex. Dès l'annonce de cette attaque terroriste, les réactions se sont multipliées dans la classe politique. Peu importe le parti, tout le monde s'est exprimé, Jacques Serret.
Oui, l'ensemble des responsables politiques de l'extrême gauche à l'extrême droite on réagit. Pour le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, l'assassin salit sa religion. Alexis Corbière, député de la France insoumise et professeur d'histoire, propose lui une journée de deuil national. Pour François Hollande, plus que jamais, nous devons être unis face à la barbarie et à l'obscurantisme. Et l'onde de choc s'est ressentie jusqu'à l'Assemblée nationale. Tous les députés présents hier soir dans l'hémicycle se sont levés quand Hugues Rançon, le vice-président de l'Assemblée, a évoqué cet attentat.
Au nom de la représentation nationale, en notre nom à tous, je tiens à saluer la mémoire de la victime de cette terrible agression et faire part à sa famille, à ses proches, comme à ses collègues et à l'ensemble du corps enseignant, l'expression de toute notre solidarité. Le président de l'Assemblée nationale lui rendra hommage lors de la séance de questions au gouvernement mardi prochain.
Pour Christian Jacob, le patron des Républicains, les grands discours doivent céder la place aux grandes décisions. Enfin, pour Marine Le Pen, il s'agit de barbarie insoutenable. La présidente du Rassemblement National qui a d'ailleurs commenté cette phrase « Ils ne passeront pas », prononcée par Emmanuel Macron. Marine Le Pen répond sur Twitter au chef de l'État « Ils sont déjà là, jusque dans nos écoles ».
Jacques Serret, pour RTL, en plein procès des attentats contre Charlie Hebdo, 3 semaines à peine après l'attaque qui a eu lieu devant les anciens locaux, la rédaction du journal fait part de son sentiment d'horreur et de révolte.
Voilà cette actualité, évidemment, vous avez tous les détails sur notre site rtl.fr, n'hésitez pas à aller cliquer le reste de l'actualité dans un instant. La suite du journal d'Agnès Bonfillon avec le début du couvre-feu dans 8 métropoles. On va en parler juste après ceci.
RTL Matin. RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
Et à mes côtés, Agnès Bonfillon, la suite du journal, bien sûr, à 9h10 sur RTL. Hier soir, Agnès, c'était permission de minuit, pas plus.
Et oui, le couvre-feu est entré en vigueur à partir de ce soir, 21h et jusqu'à 6h du matin, interdiction de sortir chez soi. Forcément, dans les 8 métropoles concernées, ce vendredi soir a pris des allures de peau d'adieu.
Quand on pense que pendant 6 semaines, ce sera fini, c'est dur.
C'est une période un peu dure pour tout le monde et je pense qu'on doit faire avec. Et encore une fois, respecter les décisions du gouvernement.
Et le gouvernement, il est très clair, interdiction formelle de sortir dans les villes concernées à moins d'un motif valable. Que ce soit pour travailler ou sortir son chien, même là, Aurélia Valarier, il faut absolument remplir une attestation.
Oui, et d'ailleurs, ça y est, cette attestation est disponible sur le site du ministère de l'Intérieur. Alors, c'est exactement le même concept que l'attestation qu'on devait avoir pendant le confinement. Vous pouvez soit la remplir directement en ligne et la télécharger sur votre smartphone, vous pouvez aussi l'imprimer. Et pour ceux qui n'ont pas d'imprimante, la version écrite est autorisée. Alors, sur l'attestation, il faudra écrire la date, votre nom et le lieu où vous vous rendez, en cochant le motif de votre déplacement. Ça peut être pour raison médicale, familiale ou encore professionnelle. Et là, une attestation de votre employeur pourra aussi vous être demandée. Les déplacements brefs autour du domicile sont également autorisés pour promener votre animal de compagnie, par exemple. Et si vous n'avez pas cette attestation lors d'un contrôle, vous risquez 135 euros d'amende, 200 en cas de récidive et 3750 euros d'amende et 6 mois de prison si vous en êtes à votre troisième infraction en moins d'un mois.
Un mode d'emploi signé Aurélia Valarier. À Toulouse, sachez que les bars vont finalement rester ouverts dans la journée. La justice vient de suspendre l'arrêté préfectoral qui ordonnait une fermeture totale. Concernant les chiffres donnés par Santé publique France, 122 personnes supplémentaires sont décédées ces dernières 24 heures. 25 000 nouveaux cas de contamination ont été recensés.
Le football et revoilà le PSG en tête du championnat de France.
Et oui, les Parisiens reprennent la tête du classement, provisoirement, grâce à un joli score à Nîmes. Hier soir, 4-0, dont un doublé de Mbappé. L'autre match de la soirée Dijon-Rennes s'est conclu par un nul, un partout. Suite de la 7e journée ce samedi, avec notamment Reims-Lorient à 17h, puis Marseille-Bordeaux, ce sera à 21h. Rencontre à vivre dans RTL Foot. Juste après, on refait le match à 18h30. Autre affiche au programme, en rugby cette fois, finale de Coupe d'Europe entre le Racing 92 et les Anglais d'Exeter. L'occasion jamais pour les Franciliens de conjurer le sort, même si la préparation a été grandement perturbée à cause de la crise sanitaire, Jean-Michel Rascol.
Oui, confronté à 9 cas de Covid, l'équipe s'est d'abord isolée dans un hôtel privatisé du Plessis Robinson. Mais pour éviter tout contact potentiellement risqué, un avion spécial a emmené le groupe à Porto Vecchio, dans un établissement là aussi totalement sécurisé, l'épidémie étant moins virulente sur l'île de Beauté. Chambre individuelle, repas par groupe de 3 maximum, les femmes de chambre, les cuisiniers étaient testés en amont et pendant le séjour. Même souci sanitaire pour les entraînements, Laurent Travers est le manager général du Racing 80.
Sur les entraînements, on a fait un peu de collectif, mais on le faisait sous forme de groupe assez restreint. Il n'y avait pas de contact. C'était que la transmission du ballon qui pouvait nous mettre à risque, sachant que le ballon était aussi désinfecté. Enfin, il y avait pas mal de choses. Mais après, elle est ce qu'elle est, la préparation, elle est ce qu'elle est. À nous de faire ce qu'il faut pour qu'elle soit positive et de faire ce qu'il faut pour qu'on puisse justement remporter le match.
Une finale disputée à huis clos. En fait, le seul parfum qui n'a pas disparu, c'est celui d'un France-Angleterre.
Jean-Michel Rascol, coup d'envoi de cette finale de Coupe d'Europe à 17h45, c'est à Bristol.
Agnès Bonfillon qui a gardé son manteau en studio, figurez-vous. C'est Il fait pas chaud, qu'il fait frais, Anthony, aujourd'hui. Hein.
Il fait frais, et en plus, il fait gris, de la grisaille sur quasiment toute la moitié nord, des brouillards dans le sud-ouest, mais qui sont là en train de se dissiper fort heureusement. Et puis, quelques éclaircies pourraient percer dans l'après-midi dans l'ouest, et c'est déjà le cas actuellement, vers le Pays Monceau, le Perche ou encore le Nord-Pas-de-Calais. Quant aux températures, elles seront toujours aussi fraîches. On partira de 10 degrés à Langres et Belfort. Pour aller jusqu'à 19 à Marseille, vous aurez 13 à Lille, Paris et Strasbourg, 14 à Brest et 16 à Bordeaux.
Mais il n'y a pas que vous qui avez des chiffres, Anthony, parce que moi aussi, j'ai des numéros, s'il vous plaît, pour les courses. À Auteuil, le quintet aujourd'hui et les pronostics de Dominique Cordier. Il vous propose de miser sur le 5, le 15, le 3, le 7, l'As, le 13, le 8 et le 2. 5, 15, 3, 7, As, 13, 8 et 2. La dernière.